That is the desert. From here until the other side, no water but what we carry.
There's no time to waste, then, is there?
I cannot fiddle, but I can make a great state from a little city.
Big things have small beginnings, sir.
To be great again, it seems we need what no man can provide. We need a miracle.
Time to be great again, my lord.
Do you know fear, English?
My fear is my concern.
You're the most extraordinary man I ever met.
I pray that I may never see the desert again.
What I owe you is beyond evaluation.
The truth is I'm an ordinary man.
Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN. Et oui, donc, avec cette petite musique à la fin, on a un petit peu reconnu le Maurice Jarre.
Mais oui, le thème célèbre du désert.
Exactement,
qui s'est transposé dans tous les films sur le désert après, en gros.
Également forcément inspiré beaucoup de choses, que ce soit au niveau musical, au niveau du montage, au niveau même du côté épique, car donc c'est la bande-annonce du remaster de Laurence d'Arabie, car c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et bonjour Antoine, comment
bonjour.
Tu vas?
Bonjour, oh, bah ça va très bien, écoutez, nous parlons d'un film qui est un film culte, et oui, pour une fois, le mot n'est pas galvaudé.
Oui.
C'est un véritable film culte qui a transformé le paysage du cinéma à l'époque.
Transformer le paysage du cinéma, on va notamment revenir sur l'après également du film, parce que c'est quand même l'un des films, voire le film reconnu comme le plus grand film de l'histoire du cinéma britannique, même si c'est également quand même une petite production américaine derrière, d'une certaine manière.
C'est anglais, forcément.
Ouais. Alors c'est très très anglais. Ouais.
Tout ce qui est anglais du 20e siècle, il y a un peu d'américain derrière, vous inquiétez pas.
On va pas dire que c'est la colonie encore, on est encore très loin de ça. Mais oui, donc... fallait quand même revenir un peu sur ce film, sur l'histoire, et forcément c'est un grand film d'histoire, déjà avec un grand H.
Absolument.
Car on va revenir forcément sur le contexte du film, car avant forcément
de Laurence
d'Arabie, c'est surtout qui est Laurence d'Arabie.
Absolument, et qui est Laurence d'Arabie? Laurence d'Arabie était un officier anglais pendant la Première Guerre mondiale, qui s'ennuyait comme pas possible en Égypte et qui cherchait un challenge.
C'est un peu ça, oui.
Bon, c'est dans la réalité, c'est un peu moins héroïque.
Oui.
Mais en gros, c'est à l'époque l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie. C'était évidemment la Turquie actuelle, mais c'était aussi tout le Moyen-Orient. Et du coup, les Turcs étaient alliés aux Allemands et aux Autrichiens pendant la Première Guerre mondiale, et les Anglais, eux, qui lorgnaient à la fois sur les ressources pétrolières du Moyen-Orient et qui voyaient d'un très bon œil l'affaiblissement de l'Empire ottoman.
À l'époque, l'Empire ottoman était considéré comme un animal faible, en fait, en fin de
oui,
vie.
C'est ce que disaient
même avant la fin de la Première Guerre mondiale, avant même la Première Guerre mondiale. Pardon.
Bien sûr, il était surnommé l'homme malade de l'Europe.
Voilà, c'est ça.
Tout à fait. Et du coup, évidemment, toutes les puissances occidentales étaient bien contentes de pouvoir se dire, tiens, et si on fomentait une révolte arabe pour affaiblir le pouvoir ottoman? Parce qu'à l'époque, évidemment, tout le Moyen-Orient était considéré comme l'Empire ottoman, mais était vu comme une espèce de colonie. Donc, l'Empire ottoman était très peu populaire. Hein.
Oui.
Et du coup, les Anglais se sont dit, et on va envoyer quelqu'un, Laurence d'Arabie, pour unir toutes les tribus bédouines de l'époque et, du coup, libérer le Moyen-Orient du joug ottoman pour y apporter l'influence occidentale, notamment anglaise, puis après française.
Exactement.
Aussi française.
Car c'est, vrai. Oui.
C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une grosse dichotomie entre ça s'est appelé la ligne Sykes-Picot, entre l'influence anglaise.
L'accord Sykes-Picot, donc c'était les deux officiers qui avaient déjà délimité le partage de ce qu'allait être l'Empire ottoman, quoi.
Voilà, et du coup, à partir de ce moment-là, ils se sont dit on va envoyer des gens pour fomenter des révoltes, et du coup, ça a été le rôle de Laurence d'Arabie.
Exactement.
Qui a été impressionné par la culture arabe et qui s'est beaucoup inspiré et qui a écrit un livre qui est devenu assez célèbre, qui s'appelle Les Sept Piliers de la Sagesse. qui à l'époque est sorti en très très peu d'exemplaires, mais qui a inspiré beaucoup de gens, qui ont redécouvert un Moyen-Orient qui était beaucoup moins fantasmé, mais très spirituel, toujours très spirituel.
Très culturel aussi.
Et qui est devenu à l'époque très très célèbre.
Oui. Alors, donc, c'était un officier donc, de liaison britannique durant la grande révolte arabe, donc, que l'on disait donc, de 1916 à 1918. Mmh. Et c'est vrai qu'avec les sept pieds de la sagesse, en fait, il va confirmer finalement ses talents littéraires, car c'était quelqu'un de très très cultivé, avant d'être un simple officier de liaison, notamment qui faisait les cartographies à la base.
Oui.
Et donc, Sir Lawrence décéda donc, le 19 mai 1935 près de Wareham, dans le Royaume-Uni, des suites d'un accident de moto. Et c'est vrai que, donc, pour revenir donc, au cinéma, l'idée de faire un film remonte, en fait, avant sa mort. On va dire le premier à vouloir lorgner sur un projet fut en fait Alexander Korda, donc grand producteur notamment qui officiait donc au Royaume-Uni mais qui était d'originaire donc de pays d'Europe de l'Est. Et donc Lawrence refusa direct, catégoriquement, enfin direct tout projet émanant de sa vie. Et Korda en fait relança le projet après sa mort, mais sans succès à l'époque, car la perspective d'alliance entre le Royaume-Uni et la Turquie face à l'Allemagne nazie aurait empêché donc de pouvoir parler des Ottomans.
Il faut jamais oublier que
c'est généralement le contexte de l'époque, il faut toujours revenir là-dessus.
Quand ça devient politique, on peut pas faire grand-chose.
Exactement, et c'est finalement donc au début des années 50 que le projet va être relancé notamment par Harry Cohn, qui était à la tête de la Columbia, donc va récupérer le projet, et avec le refus notamment de Michael Powell à la réalisation, c'est David Lynch qui va être choisi pour ce rôle-là. Alors forcément, c'est un projet, une production de longue haleine. Pourquoi ? Parce que forcément, ça va changer demain et demain, comme d'habitude. En 58, donc, Cohn va mourir, malheureusement. Donc, le producteur Sam Spiegel va tenter de remonter un partenariat avec la Columbia, cette fois-ci avec notamment plusieurs fonds britanniques sur ce projet. Et il va enfin réussir plus ou moins à relancer la machine, notamment avec David Lean, qui va également l'aider à la production, donc, et qui va donc rester à la réalisation. Mais surtout, ils vont réussir à convaincre le frère donc de Thomas Lawrence de vendre les droits d'adaptation des sept piliers de la sagesse. Ce qui n'était pas chose aisée à l'époque.
Non, du tout. Et d'ailleurs, le frère de Lawrence, le Lawrence d'Arabif, le regrettera amèrement après avoir vu le film.
Oui, alors qu'en en fait, il avait accepté donc de vendre ses droits après avoir lu le premier ébauche de scénario donc fait par Michael Wilson. Et forcément, quand un ébauche de scénario, forcément, il y a toujours du changement au fur et à mesure de l'histoire. Oui. Carlin va reprocher d'ailleurs à Wilson de ne pas avoir assez romancé l'histoire et d'imposer par là même sa personnalité dénuée de sans scrupules, notamment donc qui montre l'escamotage de son masochisme, notamment de sa probable homosexualité au personnage. Wilson d'ailleurs va tirer sa révérence et c'est Spiegel qui va faire un peu en urgence faire appel à Robert Bolt pour remanier le script de 400 pages.
Oui, puis Robert Bolt, qui devait justement travailler seulement 2 mois sur le script, il travaillera 14 au final.
Beaucoup.
Il devait travailler 2 ou 3 mois dessus et ensuite travailler sur une pièce de théâtre. Et au final, oui, les 14 mois du tournage sont passés dedans. Donc ça prouve aussi à quel point le film était chaotique, le tournage était chaotique parce que tout le temps il y avait des réécritures.
Ah, on en reviendra là-dessus.
On reviendra là-dessus, mais
c'est assez complexe.
C'est avant même le tournage, déjà, c'était quelque chose de monumental.
Oui, surtout que Robert Bolt donc était là constamment aussi pour être le script doctor, hein, donc c'était assez courant encore à cette époque d'avoir toujours un scénariste entre les mains pour remanier le script pendant le tournage. Hein. C'était toujours on va dire très très normal.
Non, mais c'est resté quelque chose de normal. Hein. Aujourd'hui, les script doctors sont...
Mais uniquement dans les grosses productions,
dans
tu vois ce que je veux dire.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, entre petites parenthèses, la célèbre Carrie Fisher, la princesse Leila, était une grande script doctor à Hollywood. Ne l'oublions pas.
Exactement. D'ailleurs, beaucoup ont été script doctors dans leur carrière pour pas mal de réalisateurs, même que l'on connaît dorénavant, comme... j'ai oublié son nom.
Ah, lui, voilà. Oh là là, c'est très célèbre.
Voilà, bien évidemment. Et après, on le retrouve dans les films qui anecdotiques, et notamment chez Marvel. alors, c'est vrai qu'on va un petit peu revenir quand même aussi sur le casting,
car
il est très très important. Forcément, donc, le rôle principal, donc Thomas Lawrence, le grand Lawrence d'Arabie, va être interprété finalement par Peter O'Toole, mais c'était pas le premier choix.
Non, le tout premier choix, c'était Marlon Brando.
Alors non, c'était Albert Finney.
C'était Albert Finney, je crois que c'était qui venait après Marlon Brando.
Alors c'était Albert Finney au tout départ, mais Lynn en fait le trouvait trop jeune. ce qui était le cas en fait pour ce rôle-là. Et Marlon Brando en fait a été approché, mais il a préféré faire les Révoltés du Bounty, ce qui ne correspondait pas au programme. On va dire à l'organigramme du tournage.
Bah en fait, il y avait déjà Marlon Brando avait déjà travaillé avec Sam Spiegel sur les quais. Vous avez reçu l'Oscar, donc il était content de pouvoir retrouver un homme très bankable. Mais Marlon Brando a dit, il est hors de question que je passe de 14 mois à chevaucher des chameaux. Barrez-vous.
Peut
se comprendre.
La flemme de Brando, bien évidemment. Bien on la sûr. Connaît. Et c'est vrai que en fait, Peter O'Toole en fait a été choisi après avoir été remarqué notamment dans le film Le jour où l'on dévalisa la Banque d'Angleterre. Et donc Sam Spiegel va le contacter directement. Et au départ, Peter O'Toole n'était pas très très chaud. Il l'a dit lui-même, tout le monde sur Terre voulait jouer ce rôle, sauf moi.
Bah, disons que tout le monde savait que David Lean allait tourner dans le désert et ça enchantait quand même assez peu de monde. Tout le monde savait que la production serait longue, que les conditions seraient assez horribles. Et du coup, effectivement, ça... Enfin, c'était un film qui était déjà connu à l'époque, en fait. Mmh. On savait que ce serait monumental. Du coup, il y avait à la fois des gens qui se bousculaient, en même temps, ça faisait peur à beaucoup de gens parce que tout le monde savait que le tournage serait fastidieux.
Extrêmement fastidieux. Alors finalement, Peter O'Toole donc, va bien évidemment accepter le rôle et va même rentrer dans la peau du personnage. Il va se teindre les cheveux en blond, il va adopter la posture qu'avait Lawrence et notamment on va rencontrer certaines personnes qui vont directement lui signifier qu'il lui ressemble beaucoup, physiquement parlant, sauf la taille, parce que donc Lawrence
plus petit, le vrai.
Faisait 1m76 et Peter O'Toole fait pas loin d'1m88.
Oui.
Donc c'est une petite différence de taille assez, assez prenante.
Et du coup, il s'est aussi beaucoup préparé, notamment en passant plusieurs mois dans le désert avec la garde nationale jordanienne pour lui montrer comment on vit à la Bédouine. Et du coup, il a appris un petit peu l'arabe, il a appris les coutumes.
C'est ça.
Et en fait, il a tenu Peter O'Toole, s'est dit, je vais vraiment rentrer dans la peau de mon personnage.
Il est parti un mois donc sur les lieux du tournage avant le début du tournage, enfin je veux dire un mois complet, donc il a quand même appris notamment à chevaucher des chameaux, à apprendre un peu la langue arabe, à vraiment tenir les us et coutumes de cette époque, donc il a vraiment planifié son rôle de bout en bout.
Oui, oui. Et d'ailleurs on en reparlera après, mais ça se voit dans le film parce qu'il est exceptionnel.
Il est très très bon, et d'ailleurs c'est pas le seul à être très bon dans ce film.
Ah non, on a plein.
Car on a aussi également d'excellents second rôles, alors on peut notamment retrouver Anthony Quinn, d'ailleurs il a touché le jackpot pour le rôle donc Oda Ibutaï, 400 000 dollars, c'est quand même plutôt une belle petite somme à l'époque.
Oui, à l'époque, ça correspond à un sacré paquet de millions d'aujourd'hui.
Voilà. Et par contre, pour le rôle du shérif Ali, c'était un personnage d'ailleurs partiellement fictif, qui a été un peu redéveloppé et remanié dans le script. Spiegel, en fait, a repéré un certain jeune acteur, qui s'appelait donc Omar Sharif, pour son rôle là, enfin
pour ce rôle là, et du coup Omar Sharif s'est parfaitement intégré à l'équipe, il est devenu pote avec un peu tout le monde, il a fait sa carrière à Hollywood et en France, il est devenu la star que l'on connaissait et qui est d'ailleurs une des plus grandes stars internationales aujourd'hui, d'origine égyptienne.
C'est vrai que c'était une des forces de Scott Spiegel aussi d'être un bon dénicheur de talent, malgré les moult refus qu'il a eu auparavant, parce que c'est vrai que par exemple, rien que pour le rôle d'Ali, il devait y avoir Horst Buckles qui devait jouer ce rôle. Finalement, il a préféré jouer dans un autre film qui était moins contraignant au niveau de tournage également, donc, et aussi un autre donc, du nom d'Alain Delon, qui lui était déjà pris pour un autre film également.
Oui, et il y a aussi, on parlait tout à l'heure de la princesse Layla de Carrie Fisher, il y a une autre personne du casting de Star Wars qui est devenue très célèbre, Sir Alec Guinness.
Oui, Alec Guinness, j'allais dire Anthony Quinn.
Oui, Anthony Quinn. Là,
Alec Guinness dans le rôle d'Anthony Quinn.
Oui, qui jouait Jabba le Hutt dans Star Wars, Anthony Quinn, bien sûr.
Donc oui, Alec Guinness donc, va interpréter donc, le rôle du...
Prince Faisal, je
du
crois.
Du Prince Faisal, exactement, donc l'instigateur de la révolte arabe. Et donc ce personnage-là, très important d'ailleurs, il aura une importance capitale dans l'histoire, dans l'intrigue, dans sa relation avec Lawrence. Et c'est vrai que donc Alec Guinness, c'est pas la première fois qu'il bosse avec David Lean, car il l'avait notamment rencontré avant avec Le Pont de la Rivière Kwai.
Oui, c'est vrai, qui a fait...
Donc il y a un petit peu, l'entourage de Lean aussi qui embellit le casting, notamment aussi on retrouve également Jack Hawkins dans les rôles d'officier britannique, pardon.
Anthony Quayle aussi, qui a d'ailleurs exigé un cachet gigantesque parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'importance dans le film. Et pour faire un petit peu chier le monde, il a dit « Non, moi je vais être payé plus qu'Omar Sharif et Peter O'Toole réunis, plus 25 000 dollars ». Tout cela pour passer pour un idiot dans le film d'ailleurs.
Voilà, c'est ça, c'est la fameuse guerre d'ego très connue des acteurs. Alors, donc, Une fois le casting passé, le tournage peut enfin se dérouler. Donc, le tournage commence donc le 15 mai 1961. Donc, Otto, comme je le disais avant, donc il se trouvait déjà en Jordanie afin de s'habituer aux conditions météo et notamment d'apprendre à monter un chameau. La séquence d'ailleurs du désert, plusieurs séquences ont été d'ailleurs filmées au départ par Almeria, donc en Espagne, mais aussi donc en Jordanie, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, car le roi Hussein en fait a mis à disposition l'armée jordanienne pour les plans en fait en ayant besoin de nombreux figurants, donc notamment les scènes de bataille et la scène de prise d'Aqaba. C'est grâce notamment à l'aide du roi Hussein, donc de Jordanie, qu'ils ont pu quand même faire, on va dire, cette séquence assez épique, assez importante, qui va émaner en fait le pouvoir que peut avoir Lawrence sur ses soldats.
Oui, oui, ça a été une des conditions de David Lean. Je veux tourner là où les événements se sont réellement passés.
Ouais, notamment donc Wadi Rum, donc les fameux séquences, notamment à proximité, on va dire, des fameux piliers de la sagesse. À peu près 20% du film en fait a été tourné là-bas quand même.
Oui, c'est oui, ce qui à l'époque était impressionnant. Énorme. David Lean voulait tout faire, mais ils se sont vite rendu compte que c'était...
Alors bon.
Voilà, parce que si le tournage a duré 1 an et 4 mois, c'est pas pour rien.
Voilà, le tournage a duré 1 an et 4 mois. Pourquoi il y a eu beaucoup de problèmes qui ont provoqué énormément de retard et donc par conséquent des plannings de tournage qui se sont échelonnés à travers la longueur. Notamment, donc les heures de tournage étaient extrêmement rétrécies. Il fallait donc tourner de 8h à 11h du matin. Pourquoi déjà ? Pour la lumière, parce qu'on ne pouvait pas tourner beaucoup plus tôt. Et bien évidemment, pour la chaleur, car à partir de midi, c'était insoutenable.
Totalement insoutenable, oui, oui.
Il fallait pas oublier donc à l'époque, donc on tournait également avec des machines analogiques qui prenaient très facilement la chaleur et qui pouvaient provoquer aussi des pannes et un manque de suite pour faire de quoi filmer, quoi.
Oui, oui, là, il y a aussi des tas de... Par exemple, il y avait beaucoup de vent. Et au début du tournage, comme tout le monde, tout le monde utilisait des petits gobelets en plastique blanc, simplement à cause du vent. Et les petits gobelets en plastique blanc se sont mis à voler partout dans le désert. Et du coup, des journées entières ont été perdues à cause de ça.
Et même les matinées de tournage, en fait, étaient très complexes, notamment pour les techniciens, parce qu'il fallait donc, éviter qu'on voit les pas des techniciens dans le sable, donc il fallait rassainir le sable, il fallait laisser aucune trace pour les séquences de tournage où en fait on est vraiment dans un endroit totalement désertique, sans lieu de vie et compagnie, quand on voit notamment Lawrence arriver assez proche d'Aqaba ou dans sa première rencontre avec le shérif Ali. Et ça demandait beaucoup de temps.
Oui, faut pas oublier que la moindre goutte d'eau utilisée sur le tournage là-bas venait uniquement en camion-citerne de plus de 200 km. Donc c'était une logistique qui était monstrueuse. Les acteurs en avaient marre et du coup Peter O'Toole s'est mis à beaucoup boire et beaucoup fumer. Des journées entières de tournage ont été supprimées parce que les acteurs étaient incapables de parler parce qu'ils étaient beaucoup trop sous. Ouais. Par exemple, une des plus célèbre scène du film, la charge à Aqaba, bon, qui a été tournée en Espagne, mais c'était aussi déjà le cas dans le désert de Jordanie. En fait, on s'est rendu compte que Peter O'Toole était incapable de parler, tellement il était saoul, tellement il avait fumé de hashish. Enfin, c'était totalement chaotique.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes, en fait, notamment donc, qui ont été tournées à Almeria également. Il y a eu du reshoot également aussi qui a été retourné au Maroc. D'ailleurs, les conditions étaient assez terribles parce que là, il devait filmer en pleine journée. Et donc, en fait, Peter O'Toole se retrouvait en fait à être dans un désert, à être filmé en gros plan. Et en fait, pour calmer la chaleur corporelle qu'il a eu beaucoup de mal par la suite, il tournait en fait avec les pieds dans des bains de glace afin de pouvoir se rafraîchir.
Voilà. Au moins pour les gros plans, ça se voit pas, c'est bien.
Ça se voit pas, ça allait, c'était parfait.
Le cinéma trouve toujours une solution.
Exactement, il y a toujours une solution à trouver quelque part. Et donc, on parlait donc des conditions de tournage terribles, mais il y a aussi un élément aussi qui a fait retarder beaucoup le tournage, c'est la méthode de travail de David Lean, bien évidemment. Oui. Car il a tendance à se présenter sur le plateau sans avoir la moindre idée de la façon dont il doit filmer la scène, au point de faire extrêmement patienter ses acteurs.
Bah oui, sachant que t'as que 3 heures de tournage par jour si tu sais pas quoi tourner.
Et donc, ça fait picoler Peter O'Toole en attendant.
Ça fait picoler Peter O'Toole. Sam Spiegel était absolument mécontent. Ils ont fini par s'engueuler. Enfin, là, il y a eu des gros problèmes avec la production. D'ailleurs, pendant ce qu'ils avaient choisi, Sam Spiegel a dit non, le tournage sera beaucoup trop long. Je vais mettre 2 mois de pause au milieu. Anthony Quinn et d'autres en ont profité pour tourner un film d'ailleurs, pour aller se reposer en allant tourner un autre film. Et du coup, il a fini par imposer un tournage en Espagne où, à l'époque de Franco, il y avait des retours financiers plus acceptables, des conditions plus sympas pour les productions.
Plus acceptables, et ça permettait de rentrer plus vite d'Angleterre, forcément,
pour faire le montage. En 2 heures d'avion, t'es à Londres, t'es content.
Voilà. Alors, donc, bien évidemment, David Lean, en fait, il avait une particularité également durant les séquences, durant les tournages. C'est, il ne sympathisait pas avec ses comédiens en dehors du travail. Il craignait en fait le fait de ne plus pouvoir les diriger le jour suivant, d'être trop amical avec eux, et du coup, il voulait garder cette figure d'autorité un petit peu plus nécessaire quand les moments n'étaient pas. On va dire anodin.
C'est le travail de David Lee, nous pourrons en reparler pour l'analyse du film, mais il était tellement pointilleux qu'au final, Sam Spiegel a voulu, pensait que ça durait trop de temps, du coup il a fait venir un autre grand réalisateur, William Wyler, pour encourager David Lee et lui dire, regarde, il y a un réalisateur qui dit de plus te reposer sur les secondes équipes pour aller plus vite. Mais David Lee a dit, non mais moi je veux garder le contrôle sur absolument tout, et il est hors de question de laisser une seconde équipe tourner sans moi.
Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, en plus, en termes d'interruption de tournage, il y en a une autre, un petit peu plus différente, qui date donc du 17 septembre 1961, suite à l'arrestation du scénariste Robert Bolt lors d'une manifestation en fait contre le désarmement nucléaire à Trafalgar Square. Donc, il a été condamné à 1 mois de prison, donc c'est plus leur scénariste. Et donc Sam Spiegel est venu à la rescousse encore une fois de plus, donc il a tout fait pour le libérer et terminer les retouches du script à temps.
Oui, ça on en reparlera après, mais Sam Spiegel a une grosse importance dans le film parce qu'il s'est quand même démené pour terminer le film, pour avoir les fonds suffisants et soutenir quand même un tournage d'un an et demi. C'est à l'époque, je crois, le film avait coûté 15 millions de dollars, c'était une somme gigantesque. Absolument. Ouais. Aujourd'hui, 15 millions, c'est le cachet d'un acteur, mais une grosse production, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était 100 fois le budget d'un film normal.
Oui, c'est l'un des plus gros budgets de l'époque du cinéma britannique, parce que finalement, le film va rester sous le giron britannique, en fait, en termes de production. Donc, il ne va pas avoir le logo avec le petit drapeau Stars and Stripes, il va garder l'Union Jack sur le reliquat. Mais c'est vrai que donc en fait ça va être un tournage complexe, donc un an et 4 mois, c'est quand même extrêmement long pour cette époque.
Oui, normalement un tournage c'est 1 mois et demi, quoi.
Voilà, c'est un tournage de 2, normalement ça doit durer 2 mois, mais forcément force est de constater que le tournage se termine enfin, et assisté de sa chef monteuse, donc Anne Coates, David Lean donc passe 2 mois sur le montage du film. C'est quand même, c'est pareil, c'est énorme, c'est immense. Il va travailler en fait 16 heures par jour. Il va réduire les rushs à un métrage de 222 minutes. C'est immense.
Oui, 222 minutes, oui, c'est 180 minutes, 3 heures, donc ça fait 3h36, je crois.
Voilà, c'est ça.
3h32.
Et pour donc certains passages, 42. Dont un avec Lawrence soufflant sur une allumette, d'ailleurs, un peu avant le lever de soleil, il va notamment s'inspirer d'autres techniques que l'on va bien évidemment parler sur l'analyse du film. C'était quelqu'un de très intéressant d'ailleurs, David Lean, en termes de réalisateur, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui sortait souvent de ses gonds, c'est-à-dire il avait il a une filmographie en fait qui parle pour lui-même d'une certaine manière.
Ah oui, bah que des films gigantesques, Le Pont de la Rivière Kwai, Lawrence d'Arabie, le Docteur Jivago, qui ont été des succès gigantesques à l'époque, grosse production.
Docteur Jivago qui d'ailleurs va retrouver Omar Sharif pour ce film.
Tout à fait, d'ailleurs parce qu'Omar Sharif a été engagé pour une série de 7 films, dont Lawrence d'Arabie, Docteur Jivago. Je crois que c'est pas trop mal d'avoir ça sur, sur son contrat.
C'est pas mal.
Et oui, du coup, effectivement, à l'époque, David Lean était considéré comme une espèce de Spielberg avant l'heure par ses productions gigantesques.
Exactement. Et finalement, c'était la bonne personne pour ce film, d'une certaine manière, car il a réussi, on va dire, par insuffler un certain vent épique à travers ce film. C'est une grande fresque visuelle, mais également humaine. Lawrence d'Arabie, c'est tout d'abord la capture d'une certaine esthétique moyenne-orientale. C'est un film à la portée historique, pertinente. Rarement un film, d'ailleurs, n'aura laissé une place aussi importante dans le cinéma. Et je trouve que d'ailleurs ces longues plages de silence, de quiétude, où l'image seule suffit à, on va dire, à condenser les émotions, c'est la force du film en fait. C'est le peu de dialogue par moment qui est embelli par la musique de Maurice Jarre va montrer en fait toute la puissance cinématographique que peut porter le 7e art.
Bah, à cette époque-là, c'était révolutionnaire aussi d'avoir déjà un tel thème, parce qu'à l'époque, les thèmes musicaux arabes étaient quelque chose de beaucoup plus cheap, beaucoup moins travaillé, alors que Maurice Jarre l'a vraiment élevé à quelque chose de très différent, de majestueux. Et c'est devenu aujourd'hui une espèce de poncif, même des films orientaux où la musique doit avoir ce côté oriental majestueux. Mais en fait, parce qu'à l'époque, il y avait, je crois, aussi Benjamin Britten et une autre personne qui devait travailler sur le film. Chacun avait les ambiance anglaise, ambiance arabe, voilà, et etc. Mais personne n'était vraiment content de ce qui s'est passé, à part pour la musique de Maurice Jarre. Et du coup, David Lean et Sam Spiegel ont dit à Maurice Jarre « Qu'est-ce que t'as sous le bras pour tout le reste du film ?» Ils ont été absolument impressionnés. Ils lui ont dit « Bah maintenant, t'as 6 semaines pour les 4 heures du film. » Ce qui aussi...
C'est un peu ça.
Ce qui est une tâche quasiment impossible, mais il l'a mené à bien et c'est devenu quelque chose d'extraordinaire.
C'est ça, parce qu'en plus, Maurice Jarre n'était pas le premier choix de David Lean. Il voulait à la base Malcolm Arnold, qui a donc fait la musique du Pont de la Rivière Kwai, qui était oscarisé même pour le film. Et aussi William Walton, mais en fait les deux premiers ont regardé le montage du film, ils ont fait non c'est on sait pas quoi faire, on sait pas trop croire à cette épopée ni insuffler une quelconque âme derrière ce film. Et donc Maurice Jarre est finalement venu derrière tout ça grâce notamment encore à Sam Spiegel, quoi. Donc
Ouais, non, et puis Maurice Jarre a vraiment insufflé quelque chose de nouveau dans le film, et qui est devenu, c'est aussi largement participé au succès.
Exactement, bah surtout encore, cette musique très reconnaissable en fait.
Ah oui,
du film.
Elle est superbe.
Et d'ailleurs, c'est aussi ça la force du film, c'est l'évasion du spectateur qui devient finalement totale en fait. Elle est exponentielle par rapport au format du film, parce qu'on a l'impression, et comme tu l'as dit un peu en off, on voit que David Lean, en fait, l'une de ses principales inspirations, je pense, pour ses grands plans d'ensemble, ses plans panoramiques monstrueux, notamment de on va dire des coins de Wadi Rum, c'est très inspiré du western de l'époque de John Ford, et notamment donc de La Prisonnière du désert.
Il regardait le film quasiment tous les jours pour s'en inspirer, bien sûr. Et en fait, David Lean s'est dit qu'il devait faire un film d'abord sur le désert.
Oui.
C'est la culture arabe, peut-être, un petit peu, de temps en temps, sachant qu'elle est quand même, ça reste des poncifs de l'époque, elle est légèrement caricaturée. Mais d'abord, lui, ce qu'il a voulu filmer, c'est le désert, parce qu'il s'est dit, personne, à part peut-être John Ford dans La Prisonnière du désert, mais ça reste dans un cadre américain et western, moi je veux filmer le gigantesque désert d'Arabie, je veux filmer la chaleur, je veux filmer quelque chose qu'on n'a jamais réellement vu intelligemment au cinéma, parce que des films qui se passaient au Moyen-Orient, il y en a eu plein dès les années 20, mais c'était des tournées dans des studios, c'était ridicule, ouais. C'était des fonds peints à l'arrière, et lui il s'est dit non, je veux aller dans le désert, filmer le désert, je veux vraiment faire transparaître cette chaleur inhumaine à travers mes films, et c'est pour ça qu'il prend son temps pour filmer le désert, il prend son temps pour filmer le soleil. Et les gens à l'époque ont été totalement estomaqués de se rendre compte. Nous, effectivement, on a un petit peu plus l'occasion de voir le désert à travers tous les documentaires qu'on a à portée de main
dans les
réseaux sociaux, les machins. On a des vidéos de partout. À l'époque, c'était nouveau. Les gens ne connaissaient pas vraiment. Quand on voit les lieux de tournage, par exemple, à Salepsen, où le camp se fait bombarder par un avion, on a un plan d'ensemble où on a des rochers qui font des falaises de 200 ou 300 mètres de haut. Abrupte. En dessous on a des chameaux et des tentes, et en fait tout cela est réel.
Oui.
Il n'y a pas un gramme d'effet spécial.
Et non.
C'est gigantissime.
C'est un brio technique d'une certaine manière de la part de Lean, mais aussi, il faut le signaler, de son chef opérateur, donc j'ai oublié son nom, Freddie Young, pardon, qui a fait un travail absolument monumental dessus, quoi. C'est vraiment un travail d'équipe aussi, d'une certaine manière, dans ce film.
Bah, David Lean s'est entouré des meilleurs, comme d'habitude. Et du coup, effectivement, tout ce groupe de talents a réussi à sortir un film époustouflant. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, bon, on en parlait tout à l'heure aussi, c'était Anne Coates, je crois,
oui,
qui a...
la monteuse.
La monteuse du film, qui a inspiré à David Lean une technique qui est lorsque Peter O'Toole souffle sur son allumette en gros plan, il y a normalement un fondu enchaîné sur les images du désert. Simplement, elle a dit non, on va faire un petit peu comme fait la nouvelle vague française.
Exactement.
En ce moment. On va pas faire un fondu enchaîné, on va faire une coupe brute.
Brute.
Et effectivement, quand je l'ai revu au cinéma l'année dernière, j'avais jamais vu au cinéma, le plan est absolument époustouflant. Mmh. On a vraiment ce gros plan sur la bouche et l'allumette soufflée, et tout d'un coup, boum, le soleil qui se lève sur un désert, il y a sur des kilomètres et des kilomètres. Et du coup, évidemment, ce changement abrupt de plan et de d'espace, impressionne. On est littéralement impressionné.
Ça épouse en fait l'impitoyable nature du désert, mais aussi qu'il y a cette espèce d'amour contagieux en fait. Il y a une fascination débordante dans ce film, sur le lieu, sur la façon de vivre dans ces milieux, dans ces conditions absolument dantesques. Et c'est ça aussi, Laurence d'Arabie, c'est une grande fresque en fait. C'est vraiment quelque chose de plus porté sur l'aventure que sur le côté, le contexte de guerre, parce que finalement, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'à la base, c'est une révolte guerrière dans l'histoire, quoi.
Oui, en fait, David Lean en parle un petit peu de cette révolte guerrière, mais ce qu'il veut laisser place, c'est d'abord, effectivement, une espèce de culture arabe qui est naissante et qui est fougueuse. C'est pareil, c'est encore un côté quelque part un peu cliché, mais à l'époque, il fallait quand même faire avec, et il fallait montrer les Arabes comme étant tous fougueux, fiers, mais du coup, pour participer justement à ce sentiment d'aventure, à ce côté inhumain, à ce côté extra-humain, surhumain. Et effectivement, c'est pour ça que quand il filme des charges de 150 chameaux avec plus de 600 soldats, je le répète, il n'y a pas un gramme d'effet spécial. La scène est toujours aussi impressionnante aujourd'hui.
Voilà. Et surtout quand elle est filmée en Jordanie avec les vrais soldats jordaniens.
Avec des vrais soldats jordaniens.
On se dit, c'est extrêmement puissant, quoi.
Bah, qui étaient probablement les arrière-petits-enfants des vrais soldats qui ont participé à la vraie charge.
Et pour la petite histoire.
C'est possible.
Ah oui, c'est possible. Pour la petite histoire, donc Anthony Quinn, comme je le disais donc dans le film, qui campe le rôle de, pardon, j'ai oublié le nom, de Oda Ibutayi, en fait, il arrivait totalement grimé sur le tournage. Il avait cette habitude d'Anthony Quinn de rentrer dans son personnage dès qu'il arrive le premier jour, et il était totalement grimé, il avait mis un faux nez, il avait vraiment les marques un peu plus, on va dire, portées sur la peau, forcément, avec les conditions climatiques de cet endroit-là. On a la peau qui est beaucoup plus impactée, forcément.
Bien sûr, par les conditions.
Et, il y avait donc certaines personnes qui donc avaient rencontré le vrai Oda et étaient bluffées en fait par la tête d'Anthony Quinn, parce qu'il était vraiment, il ressemblait également trait pour trait à l'ancien personnage. Donc ouais, c'est fou en fait de pousser à un point inimaginable cette façon de vouloir travailler dans des lieux et des conditions dantesques, de vouloir aussi joue un peu sur cette authenticité, mais il faut pas l'oublier, c'est quand même un film extrêmement romancé, c'est un film qui va forcément jouer un peu sur le côté tendancieux du personnage de Lawrence, et c'est aussi l'une des forces de ce film. Ça montre aussi le côté humain du personnage, car en fait c'est surtout un parcours mental du personnage. C'est ce personnage donc totalement solitaire, qui est impertinent à la recherche en fait d'un défi personnel, et qui correspond forcément extrêmement bien à la fameuse réplique, donc nul est prophète en son pays. Et finalement, il va l'être ailleurs, quoi. Donc, loin de ce que cherche sa hiérarchie, qui incarne donc le monde des idées, de la connaissance, il est cependant en fait aussi la victime d'un parcours qui le dépasse totalement et d'une cause qui l'amène à une aliénation fragile. La qualité en fait du récit permet en fait de garder donc une certaine cohérence face à la déliquescence du personnage, qui a finalement une personnalité très nébuleuse. On le voit au fur et à mesure dans son parcours. Lawrence va passer de quelqu'un qui a envie de vivre et de goûter à l'aventure, et finalement va subir aussi également les conséquences de son poste, de cette vision en fait, qui n'est pas comme un leader de cette armée, parce que finalement ça reste Faisal, il est son bras droit, mais il va aussi subir les conséquences. Il y a cette séquence où va y avoir des tensions entre les différents clans arabes dans cette histoire, et donc un des personnages donc va être accusé par un autre, ce qui est vrai parce qu'il a tué quelqu'un donc du clan adverse, et la règle veut que c'est lui qui doit également perdre la vie. Et là donc Lawrence comprend ses conséquences, va accepter d'être le bourreau et va quand même tuer, alors qu'il a, on l'a pas vu tuer quelqu'un auparavant, en fait.
Oui, il n'a jamais tué quelqu'un avant. Jamais.
Et il va sortir cette réplique que je trouve absolument extraordinaire. J'y ai pris goût.
Oui, c'est ce que ce parcours mental de Laurence d'Arabie, qui a été très décrié par le frère du vrai Laurence d'Arabie. Elle a dit, mais vous le dépeignez comme une espèce de sadique, de masochiste, c'est pas du tout ce qu'était mon frère. Mais après, quand on regarde l'analyse du film, ça rend le personnage tellement plus humain, tellement
beaucoup plus complexe, beaucoup plus fort.
Quand il fait cette traversée du désert qui est pour lui une aventure, c'est aussi littéralement une traversée du désert. Et quand David Lynch me montre ce désert majestueux, il le montre aussi comme étant mortel, et ça correspond parfaitement aussi au paysage mental de Lawrence, de ce Lawrence d'Arabie du film, qui est cette recherche d'aventure, cette recherche de challenge, de se dépasser soi, donc quelque part aussi de la douleur. De se transposer à travers cette douleur, se métamorphoser. Et du coup, par exemple, dans le film, quand il va récupérer un homme qui est tombé dans le désert parce qu'ils ont réalisé quelque chose qui, à l'époque, était considéré comme impensable, traversé pendant plusieurs jours, un désert qui est d'une chaleur excessive, et un homme tombe, il reste au milieu de ce désert, et Lawrence décide d'aller le récupérer. Et il revient, dans le film, il est acclamé en héros, alors que dans la réalité, tout le monde s'était fichu de lui parce qu'il avait juste sauvé la vie d'un homme en se mettant en danger, et ça valait pas le coup.
Et que voilà, autant perdre un homme, pas en perdre deux.
Voilà, et du coup, dans le film, il s'est montré comme quelque chose d'héroïque. Effectivement, la manière dont c'est monté montre à quel point c'est quelque chose de difficile et à quel point il arrive à passer cette douleur pour devenir justement ce qu'il a toujours rêvé d'être, l'aventurier, le bédouin. Et d'ailleurs, il y a une image magnifique dans ce film où on l'habille en bédouin. Avant, il était habillé en officier anglais. Là, il est habillé en bédouin. Il est heureux. Il se sent. La couleur, d'ailleurs, se rapproche de celle du désert.
Oui.
Il devient le désert et il sort, comme il sait pas exactement à quoi il ressemble, il sort son couteau. Il brandit son couteau en l'air et il peut se regarder sur la lame de son couteau. Donc c'est aussi à travers ce miroir qui est aussi une arme pour lui, donc un ego surdimensionné, etc. Enfin, David Lynch et Peter O'Toole, parce que c'est une improvisation de Peter O'Toole d'ailleurs sur le tournage.
Le coup du couteau.
Le coup du couteau est une improvisation. Mais c'est extrêmement. Enfin, David Lynch a tout de suite su à quel point c'était malin. Il a dit, bon sang, mais oui, c'est exactement ça le personnage. Quelqu'un qui est sur le fil du rasoir, encore littéralement, et qui a un ego un peu surdimensionné et qui va jouer en fait avec la vie d'un peuple.
Il accepte une mission auquel on ne pense pas vraiment une certaine réussite de la part des officiers britanniques. Ce qu'il fait finalement, et en plus il est donc presque déifié d'une certaine manière, on le voit à travers ce film, et en fait on le sait très bien que forcément la chute va être plus que terrible. Et c'est ça qui est fort avec ce film, c'est que c'est un film initiatique, donc où on voit Lawrence tenter de donner corps à son idéal, mais c'est aussi un film en fait où le récit souligne l'opposition qui tiraille en fait le héros entre son humanité et son fantasme en fait de figure christique. C'est aussi ça sa force en fait dans ce film. Et la première partie d'ailleurs, c'est très intelligent en fait.
Oui, la première partie, c'est justement le fantasme, la montée en puissance.
Ça montre Lawrence dans sa dimension mythique en fait, et la seconde
mystique aussi.
Oui, mystique. Et la seconde en fait explore plus la face sombre de Lawrence. Ouais,
la désillusion politique.
Voilà, et on le voit en fait dès le départ. Alors, c'est vrai que c'est un film d'époque. Je pense que dans le dernier montage, il existe encore donc la fameuse intermission, donc le fameux entracte qui coupe en deux le film.
L'année dernière, c'était ça. On passait 10 minutes dehors, mais tant mieux parce que 2 fois 2 heures, les jambes.
C'est ça. Donc ce fameux entracte. Et dès que le film reprend, en fait, l'une des premières séquences, c'est donc l'attaque du train donc sur l'armée ottomane. Et là, on voit un Lawrence en fait avide de sang.
Ouais.
Qui va lancer l'attaque, qui va donc tirer à la TNT pour exploser le train et donc laisser finalement le pillage se courir au cours de sa quête de rechercher des survivants quoi.
Bien sûr, et même ses
amis. Et il va se faire tirer dessus en plus.
Bien sûr, et ses amis officiers anglais d'ailleurs à la fin disaient on commence à plus trop vous soutenir parce que là on a l'impression que vous
devenez un chef de guerre.
Voilà, vous cherchez plus la guerre que justement le retournement politique que nous on cherche.
Voilà.
Et évidemment, il s'est aussi laissé prendre dans le jeu politique des Bédouins entre eux, qui évidemment, tout sauf bête, savait parfaitement quels étaient les enjeux, et qui chacun essayait de tirer sa part du gâteau, réel ou non, etc. Enfin, Lawrence d'Arabie, effectivement, s'est rendu compte à ce moment-là qu'il n'était qu'un Anglais parmi des Bédouins, même s'il était acclamé parmi ses Bédouins, qu'il avait entre guillemets son armée personnelle, ses amis loyaux qui le suivaient. Ouais. Mais il y avait aussi des chefs Bédouins qui disaient, écoute Toto, t'es anglais, l'oublie pas, nous on est dans notre pays, et nous on a aussi notre agenda politique, tu ne peux pas comprendre.
Voilà, c'est ça, et c'est ce qui va finir par l'accepter avec un grand remords, bien évidemment.
Bien sûr.
Alors, Donc pour terminer un peu cette émission, on va finir donc forcément par la réception de ce film. C'est un film qui donc reste forcément, comme on l'a dit, à jamais gravé dans la légende du cinéma. Lawrence d'Arabie donc sort le 10 décembre 1962 aux États-Unis. Le film, d'ailleurs jugé trop long après ses projections test, fut amputé de 35 minutes. Le premier montage, donc, comme je le disais, faisait 222. Et maintenant, donc, on retrouve avec la dernière version remaster, on est sur du 3h44.
Oui. Et là, ils ont retrouvé quelques scènes. D'ailleurs, voilà. Pour la restauration, ils s'attendaient. Les deux personnes qui ont restauré le film ne s'attendaient pas à ça, mais ils se sont dit bon, bah, on va appeler le studio de la Columbus pour nous envoyer quelques rushs. Et en fait, ils se sont retrouvés avec un camion de 4 tonnes de rushs. Ils ont mis un an à tout regarder.
Et surtout à tout numériser.
À l'époque, c'était pas encore numérisable, mais en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus les pistes audio.
Oui, donc ils ont dû refaire du doublage derrière.
Voilà, ils se sont retrouvés tous les acteurs pour refaire le doublage. Ouais. Et d'ailleurs David Lynch que ça aurait été drôle de voir un Lawrence d'Arabie par David Lynch, mais bon, c'est autre chose. Il a félicité Peter O'Toole parce qu'il disait que le doublage audio de Peter O'Toole était meilleur que l'original, et Peter O'Toole a dit en plaisantant: écoute, ça fait 25 ans, parce que la restauration s'est faite en 89, écoute, après 25 ans maintenant je commence à connaître mon rôle.
Alors donc, bien évidemment, Lawrence d'Arabie va devenir un succès international. Ça est un carton monumental. En France, d'ailleurs, le film attire 5,7 millions de spectateurs. C'est le troisième au box-office en 1963, derrière La Grande Évasion et La Cuisine au Beurre. Parce que pourquoi pas?
J'ai pas vu La Cuisine au Beurre, mais qui a vu La Cuisine au Beurre?
Tu ne peux pas affronter Fernandel et Bourvil face à toi, donc.
Eh oui, le grand Gilles Grangier, que personne ne connaît non plus aujourd'hui.
Oui, c'est un peu vrai. Donc, en termes de récompense, d'ailleurs, le film est également un carton, 7 Oscars, donc notamment le meilleur film et meilleur réalisateur.
Oui, d'ailleurs, il devait aussi avoir les meilleurs costumes, mais apparemment, dans la fiche technique, ils ont oublié de nommer la costumière aux Oscars.
Ça, c'est beau quand même.
C'est beau, hein.
Ça, c'est beau. Là, tu vois,
c'est bien dégueulasse.
C'est la vraie valorisation du milieu, tu vois. C'est genre.
C'est clair.
Les mecs qui se sont quand même arrachés pour les costumes, qui sont absolument incroyables.
Les costumes sont incroyables. Il y a plusieurs anecdotes. D'ailleurs, la costumière a fait exprès que les habits, notamment militaires de Peter O'Toole, soient trop petits pour lui, pour montrer qu'il n'a pas sa place chez les militaires. Et plus le film avance, plus les vêtements, notamment bédouins, deviennent transparents. Pour montrer que lui aussi devient le désert. C'est d'une intelligence extraordinaire.
Il prend une plus grande instance, une plus grande posture, en fait, dans ses costumes arabes, que dans ses costumes militaires où il est tout fin, en fait.
Il est tout fin, alors que dans les costumes arabes qui sont plus amples, ça lui permet aussi de prendre lui une plus grande stature. Eh ben non, on a oublié de nommer la costumière aux Oscars, alors qu'elle en aurait mérité 3 ou 4 juste pour ce film.
Ça, c'est problématique, d'une certaine manière.
Eh oui.
Alors, c'est vrai que donc, comme c'est un film légendaire, il a eu donc droit à sa version remasterisée, donc 89, et aussi forcément à sa renumérisation assez phénoménale également.
Oui, non, franchement, le revoir au cinéma aujourd'hui, c'est une expérience extraordinaire. Si on se rend compte que le fait que déjà la réalisation de David Lean a très peu changé, aujourd'hui, effectivement, on gueulerait beaucoup sur le film parce que beaucoup de personnages arabes sont incarnés par des Anglais pure souche, et effectivement, ça pourrait faire un peu gueuler aujourd'hui. Mais à part ça, effectivement, les plans du désert restent iconiques, ils restent majestueux. Le montage est d'une intelligence redoutable. L'incarnation des personnages et des acteurs sont extraordinaires. Le film garde ce côté iconique. Il y a beaucoup de gens pour la séance. J'étais assez étonné. Je pensais qu'il y aurait moins de monde. Mais non, on se rend compte que le fait qu'il n'y ait pas d'effets spéciaux, que ces montagnes sont là, que ces gens qui font 2 mètres de haut face à ces falaises de 300 mètres qui sont filmées de manière majestueuse, écrasent.
Et pour l'époque, c'est absolument incroyable d'avoir tourné dans ces lieux-là, en fait. Hein.
Oui, mais c'est des lieux où on est allé. Comme il y a eu beaucoup de guerres après, aujourd'hui il y a des menaces de toutes sortes, on va beaucoup moins tourner dans ces coins-là, mais... Faut pas oublier que ces paysages sont... Enfin, il y a encore des tas de paysages dans
encore
ces coins-là.
Encore que la Jordanie, ça va encore, on peut facilement...
La Jordanie, c'est un lieu un peu safe aujourd'hui.
Ce qui a d'ailleurs provoqué aussi, d'une certaine manière, l'incompréhension de Michael Bay quand Spielberg lui avait demandé de tourner notamment une séquence de Transformers en Jordanie. Et en fait, pour la petite anecdote, donc ils ont tourné en Jordanie et le soir même, en fait, Spielberg était là, la production, et donc invite toute l'équipe à voir Lawrence d'Arabie. Et il se retourne vers Michael Bay, il a fait: tu vois le lieu où t'as tourné aujourd'hui, c'est là. Et il fait: ah oui, Oui, effectivement, je l'avais jamais vu comme ça. Tu vois, Michael, j'ai jamais vu ce film.
Non, mais d'ailleurs aussi, par exemple, une des très très célèbres scènes de l'explosion du train où effectivement on a reconstruit
une reconstruction
train.
Totale avec même des chemins de fer et tout le bordel.
Ouais, on a recréé une ligne de train, on a recréé un train et en un seul plan, on a fait un train
tout pété,
un train et avec des centaines de bédouins qui dévalent la colline. Aujourd'hui, ça coûterait beaucoup trop cher de faire ça, ce serait impossible. Et c'est là aussi mon admiration pour ce film, c'est une prise de risque qui n'a jamais quasiment été réitérée. Et quand ils sont allés visiter le désert pour aller repérer notamment les lieux du tournage, et ben ils ont retrouvé le train qui n'avait quasiment pas rouillé tellement il n'y a pas d'oxygène dans l'air.
Oui, c'est ça.
Du coup, le train était quasiment là, intact. Et du coup, ça doit quand même être assez fou de se dire que 50 ans plus tard, tu reviens sur les mêmes lieux et tu te rends compte que les mêmes objets sont toujours là, n'ont pas bougé. En fait, il y a quand même comme si tout était aspiré par le temps. Et je pense que ça a dû beaucoup inspirer David Lean, justement, le fait d'arrêter le temps comme ça. Lui, c'est ce qu'il a toujours voulu voir, justement, dans ce désert, quelque chose d'intemporel.
De quelque chose de très intemporel, et surtout, en fait, d'avoir de vrais tableaux. Et ça se voit, forcément, à travers
bien
ce film.
Sûr.
Et aussi, il faut ne pas oublier de le souligner, pas mal d'acteurs aussi ont eu des carrières un petit peu plus améliorées grâce à ce film, notamment certains
Marc Sharif,
qui donc avait une carrière, enfin, il était reconnu dans le milieu du cinéma, notamment moyen-oriental, mais il va être maintenant au niveau international.
International, oui, c'est ce qu'il racontait que pour avant la sortie du film, il tournait dans des petites roulottes. Et juste après la sortie du film et le succès gigantesque, quand il revient pour le tournage, il a une caravane gigantesque avec plein de personnes juste pour petits soins pour lui. Il s'attendait absolument pas à ça. Bah, il y a eu Peter O'Toole aussi, qui a vu que ça reste son rôle le plus iconique, mais qui a eu sa carrière, qui a continué. Alec Guinness, bon, lui, c'est un peu, il a continué sa carrière au théâtre. Et du coup, il a tourné dans Star
Notamment
Wars.
Dans Star Wars, oui.
Et du coup, il y a eu plein, Anthony Quayle, Anthony Quinn, des tas d'acteurs, effectivement. On se rend compte aussi que c'est un film de casting, quoi.
Oui, c'est un film de gueule. C'est un film de
gueule, quoi.
Mais c'est vrai qu'en plus, Peter O'Toole, c'est peut-être un nom qui a un petit peu disparu, je dirais, dans l'imaginaire collectif du cinéma international.
Oui, on peut demander des gens dans la rue, je suis pas sûr qu'ils le connaissent.
Et pourtant, en fait, Peter O'Toole, pareil, a une carrière immense.
Oui.
Et Laurence d'Arabie a forcément contribué à sa carrière, mais c'est vrai que le plus impactant reste Omar Sharif, bien évidemment.
Oui, bah oui, bah ce qu'on connaît surtout en France, il a fait une petite carrière à Hollywood.
Un petit peu en France aussi, oui.
Riche grâce à Docteur Jivago, il a pas non plus touché des millions, mais quand même. Et effectivement, il a préféré s'installer en France où on l'a connu, nous tout petit parce que il adore les courses.
Oui, on l'a reconnu grâce. Alors, de notre génération, oui, donc, qui a grandi dans les années 90.
Je l'ai d'abord connu à cause des pubs pour
À cause des pubs PMU avec le cheval, c'est mon dada. Voilà.
Le cheval, c'est mon dada, j'adore les courses. Et après, quand on commence à s'intéresser au cinéma, on se rend compte qu'il a une carrière formidable, que c'était quand même un acteur gigantesque.
Et immense, hein.
Immense, immense. Et du coup, il a choisi aussi de faire sa carrière en France, ce qui est sympa aussi.
Oui, parce qu'il a quand même. Par exemple, dans les années 80, il s'était vraiment internationalisé aussi encore un peu plus. On le voyait autant, par exemple, dans le cinéma américain. Il a même joué dans Top Secret des Frères Zucker. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on avait fait l'émission sur les Frères Zucker. On le retrouve dans les Pyramides Bleues d'Ariel Dombal 4 ans après. Et encore dans Les Possédés d'Andrzej Wajda juste après. Donc, ça montre à quel point c'était un acteur multitâche et multilangue aussi.
Absolument. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'était quand même une sacrée époque, quoi, parce que la veille de la sortie du film à Hollywood, il y a Omar Sharif et Peter O'Toole qui avaient rencontré Lenny Bruce. Et Lenny Bruce était à l'époque un des grands comédiens très controversés de l'époque, qui était justement drogué.
Oui.
Et du coup, il le dit, on va aller picoler, on va aller chez moi. Donc, ils sont effectivement allés chez Lenny Bruce et Lenny Bruce commence à se shooter à l'héroïne devant les deux comparses et descendre de police au même moment, tout le monde en tôle. Et du coup, Sam Spiegel a dû user de tout son réseau pour faire sortir Omar Sharif et Peter O'Toole. Et Peter O'Toole, pour rien arranger, a dit « Vous faites ce que vous voulez, mais moi je sors pas s'il n'y a pas Lenny Bruce qui sort avec nous. » Et du coup, la veille de la sortie du film, c'est dire à quel point Hollywood, à l'époque, c'était le western.
C'est un peu ça, ouais.
C'était franchement l'immense mafia. Ils ont fait sortir tout le petit monde, ils ont étouffé l'affaire pour pas trop que ça sache et que l'avant-première se passe correctement. Enfin, c'est quelque chose qui aujourd'hui, si ça se sait, c'est
un scandale direct.
C'est un scandale absolu.
Ouais.
Mais à l'époque, ça se faisait assez régulièrement. pas tous les jours, mais assez régulièrement.
C'était cette période assez crasse aussi hein, d'Hollywood, hein, d'une certaine manière, hein, les années 60. C'était un peu, on va dire, les restes de la période folle des années 30.
Oui, c'est des acteurs qui avaient commencé, aussi le début des années 60, un peu Flower Power, où la drogue avait cette aura.
Il y avait encore plus cette place.
Tout n'était pas encore trop interdit. Mm. Et effectivement, on se rend compte qu'à cette époque-là, le Hollywood, c'est aussi ce dont on parlait par vis-à-vis des conditions de tournage. Aujourd'hui, quand un film à gros budget va tourner, par exemple, continuons sur Star Wars, le réveil de la Force, où ils sont allés à Abu Dhabi, je crois. Ils sont allés aux Émirats Arabes Unis tourner certaines scènes du désert, qui est tout aussi chaud quasiment que le désert arabe, un peu moins, mais tout de même. Les conditions de tournage n'ont plus rien à voir. Tout le monde est au
petit soin. Puis il y a le tourisme derrière. Abu Dhabi, c'est le tourisme aussi. Hein.
Voilà, mais l'eau n'est pas si loin. Oui. Tout le monde est au petit soin. Il n'y a pas de souci. Il y a plein d'unités
médicales. Alors que là, c'était en plein milieu.
Alors que là, c'était tu tournes. J'ai chaud, tant pis, on doit faire la scène. Ça n'a rien à voir.
Mets-lui un bac de glace sur les pieds, c'est bon.
C'est clair.
C'était vraiment ça. C'est ça le pire.
Ouais, bien sûr.
Mais oui, donc c'est un film qui est totalement entré dans la légende.
C'est un film fou. Quand même.
C'est un film fou. C'est un film fou par sa conception. C'est un film fou par l'histoire, avec un grand H. C'est un film fou par le personnage, parce qu'il faut quand même le signaler, Thomas Lawrence a peut-être embelli sa situation à travers son livre Les Sept Piliers de la Sagesse.
Que c'est une histoire qui est d'abord politique, politico-militaire.
C'est ça, il ne faut pas l'oublier.
C'est aussi une aventure humaine, parce que réellement, Lawrence d'Arabie a vécu une aventure intérieure qui était énorme. Ça a été un des premiers à réellement se dire « je vais vivre comme les Bédouins pour essayer de les mener à bien mon agenda politique, mais quand même essayer de rentrer à fond dans cette peau-là intentionnellement ». Et effectivement, c'est exactement ce que montre David Lean, une aventure intérieure qui est tout aussi immense que l'aventure extérieure qu'il filme.
Bien évidemment, et surtout forcément, ça me fait penser à cette histoire de tournage, parce que finalement, donc le vrai Lawrence, son voyage a duré moins longtemps que le tournage du film.
Dire à quel point ce film est assez majestueux.
Voilà, donc c'était tout pour cette émission donc sur la spéciale Lawrence d'Arabie. On revient donc la semaine prochaine pour un autre sujet. Ciao tout le monde.
Ciao.